France Musique. Musicopolis. Newcastle. Si vous êtes amatrice ou amateur de football, chère auditrice ou auditeur, vous avez peut-être dans l'oreille ce nom de Newcastle, celui d'un club anglais qui a remporté de nombreuses victoires. C'est dans la ville de ce club, celle de Newcastle upon Tyne, qu'a été publié en 1744 un volume de concertos. Je vous en livre le titre. 12 concertos en 7 parties, pour 4 violons, un alto, un violoncelle et basse continue, fait d'après 2 livres de leçons pour le clavecin, composés par Signor Domenico Scarlatti, avec mouvement lent additionnel d'après manuscrit de pièces solo du même auteur, dédié à Mrs. Bowes. Publié pour l'auteur par Joseph Barber à Newcastle et vendu en ville dans les magasins de musique. Sur la partition que nous écoutons en ce moment, d'après Scarlatti, il n'y a pas que le titre, il y a aussi le nom de l'auteur. Vous serez peut-être un peu déçu parce que ce nom n'est pas très connu. C'est celui d'un habitant de Newcastle upon Tyne, né et mort dans cette ville du nord-est de l'Angleterre et qui n'a ni le titre de Lord, ni aucun autre. J'ai nommé Charles Avison. Charles Avison est principalement connu aujourd'hui pour avoir composé ses 12 concertos d'après Scarlatti. Mais depuis quelque temps déjà, les musicologues étudient le reste de sa musique et aussi son influence en Angleterre. Ces recherches leur permettent de mesurer 2 phénomènes advenus dans le pays de Sa Majesté George II. La grande vogue des concertos et la Scarlatti Fever, la fièvre Scarlatti qui touche alors les sujets britanniques. En 1744, lorsque paraissent les 12 concertos d'après Scarlatti de Charles Avison à Newcastle, il n'y a pas très longtemps que le musicien italien a fait une première publication de ses œuvres. Il a réuni, à la demande du roi de Portugal, 30 esercizi, c'est le nom qu'il donne à ses sonates pour clavecin. Ce volume est paru en 1738 ou 39, moment où Scarlatti est déjà connu par la circulation de divers manuscrits. Mais revenons un peu en arrière pour remonter à l'origine de la Scarlattimania britannique. À l'origine de cette fièvre Scarlatti, le voyage d'un tout jeune musicien irlandais, Thomas Rosengrave, 19 ans, jusqu'à Venise où on l'a envoyé pour étudier la musique. C'est là qu'il rencontre un jeune homme à l'air grave, habillé de noir, avec une perruque noire, de 5 ans son aîné, qui joue du clavecin comme si 10 000 diables étaient à la manœuvre. Jamais auparavant, Rosengrave n'avait entendu des traits exécutés de cette manière et produisant autant d'effets. Scarlatti, puisque c'était lui, devient en quelque sorte son héros et ils vont se retrouver ensemble par la suite à Naples et à Rome. Quelques années plus tard, Rosengrave revient en Angleterre, avec certainement des copies de manuscrits dans ses bagages, et il va produire à Londres un opéra de Scarlatti. La speranza, la speranza, la speranza. En date du 3 septembre 1719, on trouve dans le registre de la chapelle de Saint-Pierre de Rome que le signor Scarlatti, précédemment maître de chapelle, est parti pour l'Angleterre. Personne n'a encore résolu la question de savoir s'il a vraiment eu l'intention d'aller là-bas, ni même s'il y est vraiment allé. Quoi qu'il en soit, à Londres, en 1720, Thomas Rosengrave, l'admirateur qu'il a rencontré en Italie, fait jouer sous le nouveau titre de Narciso, un opéra que Scarlatti avait donné quelques années plus tôt à Rome. Peu à peu, la notoriété de l'italien grandit en Angleterre. À cette époque, on ne connaît de lui que les œuvres vocales, opéras et musique religieuse. Comme je le disais tout à l'heure, c'est seulement à la fin des années 30, 1738 ou 39, qu'est publié le volume des Esercizi de Scarlatti, 30 sonates. Le volume n'est pas daté et ne comporte aucune indication de lieu d'édition. Les dernières recherches ont établi que ce lieu est probablement Londres. Avant cette publication, il est vraisemblable que certains manuscrits avaient circulé. Mais avec l'édition, soudain, la musique du maestro devient beaucoup plus facilement accessible et à beaucoup plus de gens. Très peu de temps après, Thomas Rosengrave, l'admirateur inconditionnel de Scarlatti, se laisse persuader par un éditeur anglais, peu scrupuleux, Benjamin Cook, de faire paraître une nouvelle édition des mêmes sonates, augmentée d'une douzaine de pièces. Un an ou deux après la première édition, c'est quasiment du piratage. Quoi qu'il en soit, le volume fait l'objet d'une souscription et la plupart des souscripteurs sont des musiciens professionnels. On trouve dans la liste les noms de Charles Avison, auquel je vais revenir dans un instant, Thomas Arne, William Boyce, John Pepusch, Edward Purcell, fils d'eux, ou encore le signor Gemignani. Nous le retrouverons aussi très bientôt. Parmi les souscripteurs du volume de sonates de Scarlatti, édité par Thomas Rosengrave, j'ai mentionné Charles Avison, notre musicien de Newcastle upon Tyne. Cette parution lui a évidemment donné des idées, puisqu'à peine 4 ou 5 ans plus tard, il publie ses 12 concertos d'après les sonates de Scarlatti. Thank you. Vous avez reconnu la sonate de Scarlatti précédemment entendue au clavecin, mais cette fois-ci orchestrée, avec tous les atours d'une musique de concert. C'est exactement ce que recherche Charles Avison en écrivant ses concertos d'après Scarlatti. Mais au fait, qui est cet Avison, en dehors du fait qu'il est né et mort à Newcastle upon Tyne, aujourd'hui siège d'un florissant club de football? Revenons en arrière une deuxième fois. Charles Avison est né en 1709. C'est-à-dire pile l'année où Thomas Rosengrave a rencontré Scarlatti à Venise. Né dans une ville pauvre, dans une famille pauvre, en bas de l'échelle sociale, Avison a sans doute eu sa première formation avec ses parents, musiciens tous les deux. Puis il a sans doute fréquenté une école de charité où il a poursuivi sa connaissance de l'orgue et de la musique d'église. Ensuite, il a eu l'occasion d'attirer l'attention d'aristocrates qui avaient des offices dans sa région et grâce à eux, il a pu voyager jusqu'à Londres, où il s'est fait connaître comme musicien. La ville de Newcastle, à l'époque de Charles Avison, n'a pas une vie musicale très animée. Du moins, pas grand-chose en dehors des deux pôles que sont l'église et la taverne. Le choc a dû être grand pour le jeune musicien en arrivant à Londres. La capitale britannique est alors un centre qui attire non seulement les musiciens nationaux, mais également de nombreux étrangers. Handel, par exemple, vit à Londres depuis près de 20 ans, et aussi beaucoup d'Italiens. Parmi lesquels le compositeur et violoniste Francesco Geminiani. Thank you. À Londres, Charles Avison va rencontrer Francesco Geminiani, qui va devenir son professeur et conséquemment son ami et même son idole. Geminiani s'illustre particulièrement dans le genre du concerto et en particulier ce qu'il compose à partir des sonates opus 5 de Corelli, dont il a été l'élève. Voilà qui donne des idées à Avison. Puisque son maître a arrangé des sonates d'autrui, pourquoi pas en faire autant ? Mais l'exercice est très différent. Dans les sonates de Corelli, orchestrées par Geminiani, la partie de violon est déjà écrite pour l'instrument. La partie de basse aussi. Il suffit simplement d'écrire l'accompagnement pour plusieurs cordes. Lorsque Avison s'empare des sonates de Scarlatti, lui a affaire à des pièces écrites pour clavecin, dont l'écriture instrumentale est tout à fait particulière et différente. C'est souvent une gageure de les transposer pour des cordes. Le problème qui se pose à Avison lorsqu'il décide de composer des concertos d'après Scarlatti, c'est que la forme du concerto suppose quatre mouvements, généralement dans l'ordre lent vif lent vif. Or, Scarlatti, lui, n'a écrit que des sonates en un seul mouvement. Il faudra donc à Avison, pour 12 concertos en quatre mouvements, 48 sonates de Scarlatti, qu'il faut regrouper de manière judicieuse. Se pose alors d'abord le problème des tonalités. Les quatre mouvements d'un concerto doivent absolument être tous les quatre dans la même tonalité. Avison est donc amené à transposer certaines sonates. Le deuxième problème qui se pose est que Scarlatti a une nette préférence pour les mouvements rapides. Or, pour 12 concertos, à raison de 2 mouvements lents par concerto, il faut qu'Avison trouve chez Scarlatti 24 sonates lentes. Mais il ne les trouve pas dans les sonates qu'il a à sa disposition, ni dans l'édition originale du compositeur, ni dans celle de Rosengrave, ni même dans un certain nombre de manuscrits qu'il a en sa possession. En fait, il n'a que 7 mouvements lents originaux. Que faire ? Avison dispose de plusieurs solutions pour ses mouvements lents une fois qu'il a utilisé les 7 originaux de Scarlatti. D'abord, ralentir le tempo de certaines sonates rapides. ou bien encore ce qu'il a fait dans celle que nous écoutons à l'instant, écrire lui-même un mouvement lent. Mais au fait alors, pourquoi ne pas tout composer lui-même ? Avison n'est pas en reste. Lui aussi, il a écrit un grand nombre de concertos. Il est même le plus prolifique compositeur anglais dans ce genre au XVIIIe siècle. Mais une fois rentré à Newcastle, où il est revenu à 26 ans pour ne plus en repartir, il a commencé à organiser des saisons de concerts. Et il lui fallait de la musique qui attire le public. Même si la sienne marche bien, il est probable que le nom de Scarlatti est encore plus « bankable », si vous me permettez ce terme. Les concertos de Charles Avison, d'après Scarlatti, ont de toute évidence rencontré leur public. À tel point qu'ils ont été joués jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et même encore au XIXe, faisant en sorte que le nom de Scarlatti n'a pas subi d'éclipse comme ceux de Bach ou de Vivaldi. Merci Avison. Con Furia, le deuxième mouvement du concerto numéro 6 en ré majeur d'après Scarlatti de Charles Avison, l'ensemble Café Zimmermann dirigé par Pablo Valetti. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Vous pouvez aussi aller consulter la page Musicopolis l'intégrale pour retrouver toutes les précédentes émissions. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Yves Lehorse pour le mixage, Françoise Monteil pour les recherches et le site et Claire Lagarde pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.